Donc rapidement, si tu prends trop de paracétamol, tu peux te faire une hépatite médicamenteuse. Paracétamol même est carrément vente libre. En prescription, ça banalise un petit peu la molécule. Il y a une marge thérapeutique assez étroite. Ça veut dire que entre la dose thérapeutique et la dose toxique, il y a assez peu de différence. Donc c'est vrai que l'automédication, ça commence souvent comme ça, hein, l'addiction médicamenteuse. Les personnes sont souvent dans l'attente d'un effet instantané. Et souvent, face à une douleur importante, on va dire aux personnes aussi de prendre systématiquement et de ne pas attendre que la douleur s'installe ou que l'inflammation revienne.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-up complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que vous avez peut-être dans vos tiroirs, une petite boîte jaune pour certains, du paracétamol ou d'autres traitements antidouleurs. Faire attention, est-ce que c'est un réel danger? Est-ce qu'on peut les utiliser fréquemment? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce que c'est une drogue? On va justement en parler aujourd'hui avec Christelle, qu'on a déjà eu la chance de recevoir dans notre podcast, que je vais laisser se représenter tout à l'heure. Et on est avec la team 1000% au complet. Ça va les gars?
On a hâte d'entendre Dr. P. Bernard sur le sujet.
Salut à tous.
Christelle, je te laisse te présenter pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas écouté notre premier épisode sur l'alcool. D'ailleurs, le lien sera en description de la vidéo. Donc Christelle, je te laisse le temps de te représenter.
Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation, puis me donner encore une nouvelle fois l'occasion de m'exprimer donc sur un sujet intéressant. Donc moi, je suis psychiatre addictologue. Donc, je suis pas spécialiste, des médicaments et de la douleur, mais on en entend quand même pas mal parler dans nos centres. Moi, je suis aussi chef de service d'un XAPA, qui est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui est rattaché à un hôpital psychiatrique, qui a aussi une filière avec des lits de temps plein, sevrage temps plein et un hôpital de jour en addicto.
Ok, ben, merci. Et c'est vrai qu'au début, on voulait faire un épisode sur justement l'alcool et c'est toi qui m'a dit et qui m'a proposé ce sujet-là notamment. Pourquoi tu voulais justement parler de ce sujet qui, c'est vrai, n'est pas trop abordé en ce moment?
Parce que je trouve que le sujet donc des addictions aux antalgiques notamment, enfin aux médicaments et notamment aux antalgiques, est un sujet extrêmement intéressant parce que notre travail aussi en tant qu'addictologue, il est à la frontière entre le cerveau, le cœur, les douleurs physiques, les douleurs psychiques et tout ce qui est impact émotionnel et social. Et je pense que ça serait intéressant de pouvoir discuter de ça et notamment de la souffrance en général. Aussi pourquoi? Parce que en 2025, comme en 2026 ça a été prolongé, le gouvernement a décrété qu'on était sur la santé mentale a été décrétée comme une grande cause nationale, et c'est tant mieux. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la société va quand même assez mal, et parce que la souffrance au niveau global, puisque la santé mentale, c'est à la fois la santé physique, psychique et sociale. Dans les chiffres officiels, on a à peu près une personne sur cinq qui souffre d'un trouble psychique, c'est-à-dire un trouble de l'humeur, un trouble anxieux, un trouble, et 50% de la population qui rapporte une souffrance. Voilà, et après on pourra parler de chaque chose, mais donc la population souffre, va mal et ingurgite tout un tas de médicaments pour essayer de neutraliser tout ça. Et ça devient un véritable problème de santé publique.
Justement, de quoi on parle? Est-ce que tu peux me donner des exemples justement de molécules, de cachets? Même tu peux citer des marques dans le podcast, 1000%, il y a aucun souci, tu peux y aller.
Même sans citer des marques, hein, on a beaucoup, beaucoup de consommation d'antidouleurs et notamment de dérivés morphiniques comme décodéinés ou, bon oui, là je vais quand même le citer, le tramadol, qui sont des molécules que les gens consomment, enfin prennent au départ hein, pour une indication d'une douleur aiguë et qui s'accrochent à ça et continue en fait à le consommer alors même que le problème aigu douloureux n'est plus d'actualité parce que en fait il consomme pour tenir, pour masquer une souffrance et pour continuer un peu comme un produit dopant entre guillemets.
Un peu comme un pansement aussi, hein. Pierre, tu veux rebondir?
C'est ça, un peu comme un pansement.
Il y a les antidouleurs et il y a aussi les anxiolytiques. Est-ce qu'on est toujours le premier pays à consommer des anxiolytiques ou c'est une idée
Oui, tout à
reçue?
fait. On est un des plus gros consommateurs d'anxiolytiques. Normalement, tout ce qui est, enfin, notamment tout ce qui est benzodiazépine et des molécules qui sont souvent prescrites. Alors, je vais pas accuser mes confrères, mais normalement, ce sont des molécules où la durée de prescription est limitée à 3 mois, 9 semaines, et qui sont souvent prescrites en long cours, bien plus longtemps. Et aussi sous l'injonction des personnes hein, qui réclament, voire qui exigent, mais on n'arrive plus à arrêter ces molécules. Et ensuite, nous, on nous les envoie dans les XAPA en nous disant faites quelque chose. Et c'est un petit peu compliqué d'aider les gens à arrêter au bout de X années de consommation de ces substances. C'est vrai que c'est un problème.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast.
Donc, et au niveau comment ça se passe, comment on en arrive là, justement, peut-être recommencer par les antidouleurs, peut-être qu'après on prendra les anxiolytiques dans une autre partie, mais comment on arrive là, peut-être les gens qui nous écoutent se disent, oh, pff, moi, ça va, j'ai un peu mal, je prends du Doliprane de temps en temps, c'est rien, mais quel est le parcours? Est-ce que c'est quand même des profils que vous voyez régulièrement dans votre structure?
On voit souvent des profils de personnes qui, à la base, ont eu une pathologie chronique douloureuse, mais quand on cherche un petit peu, souvent ce sont des personnes qui avaient autre chose derrière, par exemple une problématique anxio-dépressive, c'est très fréquent. Et donc, notamment le tramadol, qui a un petit effet antidépresseur, du coup, ça répond en fait à l'expression de cette souffrance qui s'exprime aussi par le corps et qui fait que bah, les personnes finalement continuent à le consommer. Donc ça répond aussi à une notion du modèle un petit peu biopsychosocial de la douleur, c'est-à-dire que les gens ont une véritable pathologie douloureuse. Par contre, cette pathologie douloureuse est majorée par un état psychologique, enfin une santé psychologique ou une santé sociale qui ne va pas bien non plus. Donc ils continuent à consommer, ce qui entretient finalement la pathologie douloureuse.
Je me permets, c'est vrai qu'on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait tourné avec Pierre, hein, qui est kiné ostéo spécialisé justement sur le dos. Pour aussi rebondir, il y a aussi des gens qui sont contre ces médicaments et qui ne veulent absolument pas les avoir. Pierre, toi, de ton expérience, dans certains cas isolés, ça peut être peut-être intéressant aussi d'en prendre, bien sûr accompagné par un médecin. Tu en avais parlé. Est-ce que tu pourrais peut-être, comment tu pourrais, je pose la question à Pierre parce qu'il a aussi des patients, ça peut être intéressant d'avoir justement son avis sur la question. Toi, comment tu te positionnes, Pierre, par rapport à ça et ces gens qui ne veulent pas justement consommer ces médicaments?
De toute façon, déjà, il y a un cadre légal, c'est que c'est sur prescription médicale. Sauf quand les patients, ils récupèrent ça dans les placards du cousin, de la tante. Et ça arrive souvent aussi. Quand en séance, ils sont douloureux, ils ont un épisode douloureux de sciatique, par exemple, et ils me disent, est-ce que je peux pas juste prendre du tramadol? Moi, j'ai ça qui traîne, il m'en reste. C'est peut-être le problème aussi des prescriptions de boîte et non pas de traitement par plaquette avec cette unité. Prescription de dose, quoi. OK. Il a 15 doses, c'est son traitement, et je ne lui file pas juste une boîte de vin pour pas qu'il lui en reste et qu'il puisse en réutiliser comme ça en automédication. Je pense que le problème vient plus de l'automédication, Christelle, non ?
Oui, tout à fait. Même tout à l'heure, on évoquait le paracétamol. C'est un très bon exemple parce que le paracétamol même est carrément en vente libre, donc tu peux en acheter. Du coup, le fait que ce soit en vente libre sans prescription, ça banalise un petit peu la molécule. Or, comme on dit, il y a une marge thérapeutique assez étroite. Ça veut dire que entre la dose thérapeutique et la dose toxique, il y a assez peu de différence. Donc rapidement, si tu prends trop de paracétamol, tu peux te faire une hépatite médicamenteuse. Donc c'est vrai que l'automédication, ça commence souvent comme ça, hein, l'addiction médicamenteuse, ça commence souvent par les médicaments achetés sans ordonnance en pharmacie ou par les médicaments pris dans les pharmacies des autres. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a peu de temps, tout ce qui est codéiné et tramadol, le cadre légal a été changé pour être mis sur ordonnance sécurisée et resserrer les conditions de délivrance.
C'est comme, juste par rapport au Doliprane, hein, pour donner des noms et que ce soit clair pour les gens, ça serait quoi les recommandations? À partir de quoi on fait attention? À partir de combien de temps de prise d'affilée on fait attention? Moi, c'est vrai que j'ai connu des gens qui prenaient 3 Doliprane par jour depuis 3, 4, 5, 6 mois. Mais vraiment, c'était normal pour eux. Et vraiment, ils ne pensaient pas que c'était négatif. Enfin, peut-être inconsciemment et encore. Excuse-moi, Vincent.
Non, mais moi, j'avais des patients, ils avaient des murs entiers de Doliprane, un mur jaune. Et là, j'ai fait une petite question à ChatGPT. J'ai demandé combien de boîtes de Doliprane étaient vendues en France. Il m'a dit en 2024, 350 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a un Français sur deux qui a été prescrit en antidouleur, en antalgique. Voilà, c'est monstrueux.
Donc, à partir de combien il faut s'alerter, s'alarmer, à partir de quelle consommation?
En fait, les consommations, les limites de prescription, enfin de quantité, c'est pas plus de 3 grammes par jour et c'est 1 gramme toutes les 4 heures, voilà, de paracétamol. Donc au-delà de ça, on a un risque de toxicité pour le foie. Et par rapport à ce que tu disais, Vincent, moi j'avais regardé un peu les chiffres et sur les sites officiels, ils parlaient donc en France de 171 000 personnes traitées pour des traitements de substitution aux opiacés, donc des personnes substituées pour des dépendances aux opiacés en 2024. Et donc ça c'est une chose, hein. Ça donne un ordre de grandeur des personnes dépendantes aux opiacés. Et tu as 12 millions de personnes qui reçoivent chaque année une prescription d'antalgique opioïde, donc dérivée d'opiacés, fort ou faible.
1 sur 4.
Tu vois, en dehors, c'est énorme, 12 millions. Et beaucoup, la plupart, pour des douleurs non cancéreuses. Donc c'est quand même... Enfin, moi, je sais que, par exemple, à titre personnel, et j'en veux pas du tout à mon dentiste, hein, si jamais il voit le podcast, dès que je vais chez le dentiste pour faire un soin dentaire, il me colle systématiquement de l'efferalgan codéiné, que je prends jamais. Je dis au pharmacien, moi, j'en veux pas, de toute façon, j'en ai pas besoin. Mais c'est un petit peu systématique... Donc, bon.
Est-ce que tu peux hiérarchiser un petit peu l'impact des antalgiques parce que toi, t'as un héritage, voilà, t'es médecin, tu sais pourquoi tu dis non et pourquoi t'en as pas besoin. Mais ceux qui ont aucune conscience de la hiérarchie des antalgiques.
Bah, en fait, les opioïdes, on les classe en faible ou fort. Et pour donner un petit peu une idée, des opioïdes sont tous les médicaments dérivés de l'opium, c'est-à-dire de la morphine. L'héroïne est extrait de la morphine, par exemple. Déjà, moi, quand j'explique ça aux patients, ils sont très étonnés. Ils me disent « Ah bon, ça vient… » la morphine, déjà, c'est plus connu. Donc, ils ne savent pas que tout ce qui est codéine sont des dérivés morphiniques. Déjà, c'est une information, je pense, importante à dire. Et la codéine, donc, ça fait partie des opioïdes faibles. C'est pas pour ça que c'est pas dangereux. Et après, tout ce qui est morphine et puis bon, ce qui est utilisé en anesthésie, et ça, ce sont des opioïdes forts. Donc le tramadol, il fait partie des opioïdes faibles, sauf erreur de ma part, mais pourtant c'est un médicament qui est vraiment très très addictogène parce qu'il a cette composante aussi antidépressive associée et qui fait que les personnes qui ne vont pas très bien, hein, qui sont un peu déprimées, un peu surmenées, sont malheureusement dans un premier temps assez soulagées par cette molécule.
Donc le conseil, ça serait quoi alors pour nos auditeurs? Toi, t'as quand même ce réflexe derrière et ta sensibilité de ne pas vouloir le prendre. Comment on fait les gens, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément ton œil, ils n'ont pas aussi tes connaissances. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Justement, c'est difficile parce que quand c'est un médecin qui te donne ça ou quand c'est un dentiste, c'est quand même le corps médical. Donc, quelles précautions avoir?
En fait, moi, je vais te répondre très honnêtement. Je trouve que ce serait aux médecins ou aux dentistes prescripteurs d'expliquer les recommandations. C'est plutôt
bien sûr.
C'est comme ça que ça devrait être fait et de prévenir. Ça fait partie de nos missions et de notre responsabilité d'expliquer les risques à la personne et de leur dire, voilà, si vous avez très mal à tel, enfin, essayez de faire un petit peu, c'est compliqué les échelles de douleur parce que c'est aussi très individuel la douleur dans le ressenti, mais de leur expliquer que en tout cas, s'ils ont besoin de ce médicament-là, qu'ils sachent que c'est une molécule qui peut provoquer des dépendances, que donc sur une durée courte de 3-4 jours, ça ne pose aucun problème, mais s'ils commencent à avoir envie d'en prendre alors qu'ils ont plus tellement mal, là, faut revenir vers nous pour en discuter parce qu'il y a certainement un problème. Faut informer, hein, en fait, faut informer les personnes.
Je sais pas si
comme quand tu prescris un anxiolytique, quelque chose pour la crise d'angoisse, tu vas expliquer à la personne, n'en prenez pas tous les jours systématiquement, sinon vous allez vous accrocher.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10, lien et code en description. Retour au podcast.
Il y a un système de dépendance aux opioïdes, mais il y a aussi un risque d'inflammation du foie avec le paracétamol, le doliprane.
Oui.
Il y a aussi beaucoup de confusion avec des gens qui prennent des antidouleurs alors qu'ils pensaient que c'était un antalgique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différences?
Les différences par rapport le paracétamol, donc il est uniquement antalgique, donc il agit uniquement contre la douleur et il est aussi antipyrétique contre la fièvre. Ensuite, dans les antidouleurs, tu peux avoir aussi les anti-inflammatoires, par exemple.
Ibuprofène.
Ibuprofène, voilà, c'est un très bon exemple qui est quand même assez accessible. Donc lui, il va agir à la fois sur la douleur et sur l'inflammation. Il va pas vraiment agir sur la fièvre. Après, tu as l'aspirine. Donc l'aspirine, lui, il est antidouleur et aussi un petit peu anti-inflammatoire et un peu aussi anti-agrégant pla pla plaquettaire, pas anticoagulant, mais anti-agrégant plaquettaire. Et puis après, tu as les opiacés. Donc les opiacés, eux, c'est des antidouleurs purs et donc faibles ou forts. Voilà, je sais pas si ça répond
Mais ils n'ont
aux
pas le
questions que
même
tu as posées.
système en fait, ils n'ont pas le même la modalité d'exécution de l'antidouleur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ils agissent
Donc ils n'ont pas les
pas,
mêmes risques aussi.
ils n'ont pas les mêmes risques, ils agissent pas au même endroit. Il y en a, c'est que douleur, il y en a, c'est douleur-inflammation, il y en a, c'est douleur-inflammation-fièvre ou douleur-fièvre. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très clair pour les personnes, mais ça, c'est très clairement au médecin d'expliquer.
Et par exemple, le piège aussi de l'automédication, et c'est ce que je vois très souvent, c'est des patients qui prennent de l'ibuprofène, ils en prennent un, ils me disent j'ai pris un anti-inflammatoire, ça n'a pas marché. Sauf que c'est les limites aussi de l'automédication, c'est qu'on ne sait pas quel dosage prendre, quelles sont les limites, typiquement pour le doliprane, sauf si c'est expliqué. Et l'ibuprofène, en fait, n'a pas d'effet anti-inflammatoire sur une seule prise. Il faut qu'il y ait 1 200 mg de pris sur une journée en 3 prises. Bon, on n'est pas là pour expliquer les modalités de prise des médicaments. C'est pas mon rôle non plus. Mais force est de constater que des fois, il y a des protocoles de prise de médicaments qui ne sont même pas respectés. Donc, on a juste un petit effet antalgique, mais on n'a même pas d'effet anti-inflammatoire. C'est sous-optimal et c'est dommage, quoi.
Ou à l'inverse, des gens qui prennent un ibuprofène pendant 15 jours, quoi, enfin, ou un mois.
En fait, par rapport à ce que tu dis aussi, ça me fait le pont sur le fait que les personnes sont souvent dans l'attente d'un effet instantané. Parce que c'est un peu, on est un peu formaté comme ça. On veut tout de suite, on veut que ça agisse à l'instant. Et du coup, c'est vrai que comme tu le dis très bien, l'inflammation ou la douleur, c'est un cycle. Et souvent, il faut attendre un cycle, c'est-à-dire plusieurs prises pour le cycle de l'inflammation, le cycle de la douleur. Et souvent, face à une douleur importante, on va dire aux personnes aussi de prendre systématiquement et de ne pas attendre que la douleur s'installe ou que l'inflammation revienne. Si on sait que de toute façon, ça va revenir, un exemple typique, c'est en post-opératoire. On sait que les 48 heures post-opératoires vont être compliquées. Donc là, on peut dire à la personne, prenez systématiquement pendant 3 jours parce qu'on sait que vous allez avoir mal. Et après, vous suspendez, vous écartez un petit peu les prises et vous voyez comment ça se passe. Mais c'est clairement au médecin d'expliquer le schéma de traitement et le pourquoi. Ça, c'est vraiment de l'éducation à la santé.
Oui,
Les
mais il y
gens,
a beaucoup.
ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas le deviner, hein.
Oui, mais il y a quand même beaucoup d'automédication, Christelle.
Oui,
Et je
c'est
pense
vrai.
pour les auditeurs, ceux qui sont là, la personne facilement accessible et qui peut-être vous, bon, forcément le médecin traitant, mais les pharmaciens sont formés sur la pharmacologie. Ils connaissent très bien les
Aussi.
molécules, les doses, les
Oui.
interactions. Et si c'est votre pharmacien de confiance et de proximité, il aura tout votre dossier médical avec les
Aussi.
prescriptions. Donc, c'est aussi l'intervenant de choix.
Ouais, complètement, mais c'est des deux côtés, hein, t'as raison, faut donner nos recommandations, faut expliquer, le pharmacien aussi, et puis l'automédication, c'est aussi un vrai problème, tout à fait.
Et justement, pour peut-être les gens, on a vu qu'il y avait plusieurs profils, hein, des gens qui vont se faire peut-être opérer, qui peuvent tomber dedans, des gens qui ont des douleurs plutôt chroniques et qui vont consommer. Et au final, ils peuvent être dans le piège de se dire, oh, ben, au final, je prends des antidouleurs, c'est pas grave. Quel impact ça peut avoir justement de négatif sur le corps? On a parlé un petit peu du foie. Est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments qui peuvent venir impacter pour prendre conscience justement des effets négatifs que ça va avoir sur ces traitements sur du long terme.
Oui, ben, il y a les anti-inflammatoires peuvent être aussi toxiques pour les reins. En fait, il n'y a pas que le foie, il y a aussi les reins. Et surtout, le problème pour les opiacés, c'est le risque d'installation d'une addiction et d'une addiction forte avec une dépense majeure, notamment tout ce qui est codéine et tramadol, ça donne des dépendances tellement fortes qu'on est obligé de passer les personnes sous traitement de substitution.
Il y a
Donc
une crise
voilà,
des
c'est.
opiacés, hein, aux USA qui est
Oui.
catastrophique, hein.
Oui.
C'est un
Oui.
drame.
Ça s'est installé avec l'oxycodone qui avait été présenté à l'époque comme soi-disant un médicament sans addiction par les laboratoires.
N'y a pas eu un procès qui a
Pardon?
été. Ils n'ont pas eu un procès,
Oui.
justement?
Si, je crois. Ouais. Ça avait été présenté comme le médicament miracle qui provoquerait jamais d'addiction et ça a été prescrit et à tour de bras et ça a provoqué oui une crise majeure des dramatique hein, d'ailleurs
Mais il y a un film
sur
là-dessus, je crois, sur Netflix, qui s'appelle Painkillers. Je sais pas si je me trompe pas
c'est ça
sur
ouais
le.
ouais
Et en fait, la mise en place du médicament sur le marché, toute la promotion qu'il y a eu et l'engouement,
oui oui
comment dire, le fiduciaire qu'il y a pu avoir là-dessus, était juste monstrueux. Et le temps qu'on se rende compte qu'il y a une addiction chez les gens qui était massive, c'était déjà trop tard. Et il y a des vidéos de rues de grandes villes aux États-Unis où c'est vraiment Zombieland, hein. Vous avez des gens avec le fentanyl là, ils sont pliés en deux dans la rue, mais ça me terrifie, hein.
Ouais,
Mais
c'est
donc,
une
c'est quoi les
pollution. Et
solutions?
en France, tu vois, quand j'ai regardé les chiffres au niveau des ces données parlementaires, ils disent quand même que en 10 ans, entre 2005 et 2006 et 2015, c'est dans ces 10 dernières années, hein, le problème, la prescription des opioïdes, enfin des antalgiques opioïdes, a doublé quand même, hein, enfin a augmenté de 50%. Donc, ça donne récemment, les données récentes, ce que j'ai trouvé, ça donne 4 décès par semaine en France liés à un usage d'opiacés prescrits. C'est beaucoup, c'est beaucoup,
Oui,
hein.
c'est que les décès, c'est pas les dommages collatéraux des familles
Oui,
et de ce que ça
c'est
crée au niveau
ça.
sociétal. Mais je pense,
Parce que c'est
Vincent, tu vois,
prescrit.
ce que j'en discutais avec une patiente qui s'est fait opérer de la hanche et qui a commencé à avoir des tremblements une semaine après son opération. On lui a dit que c'était l'anémie. Je lui ai dit, bah, c'est peut-être les dérivés morphiniques qu'on vous donne, que vous avez arrêtés, et qui vous ont donné ça. Ça peut être une discussion. Mais je pense qu'une des solutions à la prise de ces antalgiques forts pour les patients qui ont des douleurs musculo-squelettiques, c'est justement l'accès à de la rééducation à un coût
Oui.
qui est, entre guillemets, moindre pour le patient, et que ce soit le plus accessible possible pour qu'il y ait des solutions intelligentes de traitement de la douleur. Et
À
c'est là le
fait.
rôle des kinésithérapeutes.
Ouais.
C'est vraiment
Tout à
notre rôle de
fait.
jouer ça,
Et
hein.
c'est là où je pense que c'est intéressant d'introduire la notion différence entre la douleur aiguë et la douleur chronique. Il faut bien distinguer les deux choses. La douleur aiguë, elle est utile parce qu'elle c'est un signal. C'est un signal utile qui nous protège, qui nous oblige à faire quelque chose, à consulter, à se soigner. Voilà, c'est la douleur chronique en fait qui devient problématique. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé et qui devient une maladie en soi. Et c'est vrai que souvent, le médicament prescrit pour une bonne raison, pour un signal ou une douleur aiguë, devient le problème. Et devient l'origine de la maladie, d'une douleur chronique en fait qui s'est installée parce que quand l'antalgique continue à être consommé alors que finalement il n'y a plus vraiment de douleur, il y a une modification au niveau neurobiologique. Donc c'est là où ça devient problématique. Et c'est vrai que vous en tant que kiné, c'est moi qui vais vous poser la question. Je pense que vous pouvez les repérer, ces personnes-là. C'est certainement des personnes qui arrivent et qui vous disent, ah ben, sans mon cachet, j'arrive plus à bouger, ou sans mon cachet, j'aurais pas pu venir à ma séance. Et c'est là où je pense que vous pouvez repérer qu'il y a potentiellement un problème.
Il y a peut-être un biais d'élection chez les gens qui nous consultent. Et je pense que plein de fois, je pense qu'on vous a dit, moi, je ne suis pas trop médicament. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, on me le dit très, très, très souvent. Donc, je pense que je vois des gens qui cherchent des solutions alternatives à la chimie. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont en dehors de ce circuit-là, que nous, on ne voit pas, on ne voit jamais. Qui ne font pas, parce que c'est un effort quand même de faire de la rééducation, c'est de la récurrence, c'est du temps, c'est un investissement personnel. Donc peut-être qu'il y a plein de gens qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont sur un autre mode de fonctionnement et sur du traitement passif chimique, quoi, malheureusement.
Ah, mais le message de la chimie, c'est comme une béquille, comme un pansement en phase aiguë, comme tu dis, Christelle. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Et il y a l'inverse des gens qui sont en phase aiguë, qui ne veulent pas prendre cette médication, oui, qui là a complètement sa place. Donc prendre des antalgiques quand on a mal, je pense que c'est du bon sens. Mais par contre, avoir toute cette éducation où il y a une chronicisation de la douleur, ben c'est important aussi d'avoir ce double discours, de savoir la modalité d'action de l'antalgique.
C'est un outil.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un outil, tout à fait.
C'est un très bel outil.
Pas une béquille. Et c'est vrai qu'après, apprendre à rebouger son corps sans produit, c'est quand même intéressant. Et ou alors, les autres traitements, vous connaissez bien plutôt... Bien mieux que moi, qui sont la neurostimulation ou autres, pour traiter les douleurs chroniques aussi, en dehors des comprimés.
Des facteurs, excuse-moi Christelle, mais est-ce qu'il y a des facteurs à risque justement sur des types de personnes justement sur lesquelles il faudrait faire attention? Je parle notamment, peut-être on en a parlé, par rapport à l'alcool, des gens peut-être qui consomment régulièrement de l'alcool, peut-être des gens qui sont en surpoids. Est-ce qu'il y a des caractéristiques sur la personne qui peuvent augmenter justement les inconvénients des médicaments?
Au niveau douleur?
Oui, au niveau douleur et même au niveau anxiolytique.
Je pense que c'est les facteurs de vulnérabilité, ça va être un petit peu... pour les anxiolytiques, ça va être les personnes un peu fragiles qui vont avoir des fragilités psychiques, en termes d'anxio, dépression, troubles de l'humeur ou autre, c'est sûr qu'un anxiolytique peut être utile ponctuellement, mais avec risque que la personne s'y accroche en voulant chercher ça comme la seule solution. C'est toujours pareil, donc ça demande une information autour et des recommandations pour dire chercher d'autres solutions pour gérer l'anxiété ou la souffrance psychique que la réponse uniquement médicament. Donc ça peut être, je sais pas, le sport, la méditation, la sophrologie, je sais pas moi, d'autres, la créativité, la peinture, la lecture, tout ce qu'on veut, mais d'autres sources de détente que le médicament. Après, la douleur, c'est un peu la même chose. C'est comment la personne va gérer la douleur, comment elle va être en mesure de la transformer finalement. Et comment on interprète et on vit sa propre douleur ou sa propre souffrance au sens large.
Non, mais là, c'est le moment, Christelle. Il faut que tu nous définisses, on tourne autour du pot, mais qu'est-ce que c'est la douleur pour toi? On a parlé de douleur physique, psychique, de souffrance. Oui. Fais-nous un petit topo de cette douleur et puis après on pourra peut-être associer le bon traitement à la bonne douleur.
Alors pour moi, la douleur, c'est la douleur au sens large, c'est la souffrance. Donc ça va être à la fois la composante physique du corps, psychique, comment je vais dans ma tête, et aussi social, c'est comment je vais dans ma vie. Et par rapport au ressenti, dans l'interprétation de la douleur, au départ, on était sur simplement un schéma très linéaire, c'est-à-dire un récepteur, par exemple un récepteur au bout du doigt, qui va me dire que la plaque est chaude et qui va envoyer une information à mon cerveau pour me dire que c'est chaud et qu'il faut que je retire ma main. Donc ça, c'est le modèle le plus simple. Les recherches au niveau neurosciences ont montré qu'il n'y avait pas que ça, ça serait trop simple. Il y a un modèle qui est à la fois biologique. Donc là, on parle des nerfs, des muscles, des articulations, tout ce qui est visible, la partie médicale, visible, mesurable. Il y a la partie psychique avec le stress, l'anxiété, la peur, l'anticipation, le découragement, le fait de la peur d'avoir mal. La peur d'avoir mal, la crainte d'avoir mal va t'augmenter le signal. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un « Oh bah dis donc, rien que d'y penser, ça me fait mal », c'est que tu as une représentation de la chose. Tu vois, et déjà dans ta tête, tu t'imagines que ça va être très douloureux. Et puis, il y a l'environnement toujours social avec toutes les pressions professionnelles, l'isolement, la fatigue, la précarité. Une personne, par exemple, qui est seule et isolée, elle va avoir un ressenti de sa souffrance beaucoup plus importante qu'une personne qui est accompagnée. Donc, en fait, dans ce modèle global, le cerveau apprend la douleur. Tu as une représentation globale de ta douleur. C'est pour ça que quelqu'un qui a une certaine douleur avec une lésion va la supporter, entre guillemets, plus ou moins mal, parce que son cerveau va se la représenter d'une manière différente. Alors, ça ne veut pas dire que la douleur d'une personne ou d'une autre va être imaginaire. Elle n'est pas dans la tête, elle est toujours réelle. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans notre cerveau, le cerveau joue un rôle central se représenter finalement tout ça, et que la douleur, ça peut s'apprendre comme se désapprendre. Voilà, c'est un peu ma conception globale, issue de cette culture du modèle un petit peu biopsychosocial de la douleur. Voilà, je sais pas, donc la douleur, on la traverse, on peut aussi la traverser, l'accepter, parce qu'elle a un but, et l'a transformée en quelque chose.
Et la patience.
C'est ce que j'ai été.
Et la patience.
Et l'antalgique et tout ce qu'on a vu, ces médicaments viennent comme un pansement sur la conséquence, mais ce que tu nous dis, c'est que l'origine et la cause de traitement se situeraient au niveau de notre interprétation cérébrale. Donc c'est au niveau du cerveau à réapprendre à notre gestion de la douleur.
Exactement, parce que on est quand même dans une culture, dans une société qui veut toujours éteindre, anesthésier et effacer la douleur de manière systématique.
Faut s'en servir.
La douleur, faut pas oublier que c'est aussi un signal qui rend service parfois et qui, au niveau aussi artistique et culturel, a permis à des personnes de s'exprimer, de transformer et de créer des choses quand même assez incroyables. Donc, on a des exemples de peintres qui ont, ou de chanteurs qui ont transformé des vécus excessivement douloureux en production artistique. Voilà.
Et si justement, tu avais des... quelques clés à transmettre à nos auditeurs pour sortir de ce cercle un petit peu vicieux de la douleur et des traitements justement médicamenteux, se faire accompagner, j'imagine que c'est quand même la base. Justement, vers qui on les accompagne, comment on fait, est-ce que tu peux justement pour conclure ce podcast nous en dire un petit peu plus sur des actions concrètes pour nos auditeurs?
Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que se questionner sur l'origine de sa douleur et se dire que voilà, la douleur, elle est réelle, mais peut-être que sa dépendance, elle est réelle aussi. Donc, le corps a d'autres ressources, en fait, que simplement prendre des comprimés. Si on en est arrivé là, c'est pas pour rien, c'est pas pour accuser les gens, c'est parce que voilà, on essaye de s'adapter à des situations complexes et que on est aussi dans cette injonction permanente de vouloir effacer la douleur. Mais que toujours la même chose, hein, en parler peut-être si on parlait plus et si on s'écoutait plus, c'est pas simplement s'écouter, entendre un bruit, mais s'écouter et s'entendre. Et si on était autorisé aussi à parler de nos souffrances et de nos douleurs, on pourrait mieux, je pense, les accepter, parce que parfois la douleur, elle sert à quelque chose et elle a un but, et accepter de la traverser et de la transformer autrement qu'en prenant des cachetons, tu vois.
Mais une fois qu'on les a pris, justement, malheureusement, on est dedans, comment on fait pour essayer de s'en sortir? Tu as parlé justement de substitution pour certaines molécules. C'est quoi les solutions?
Tu parles des opioïdes, hein, Pams.
Oui, bien sûr.
Pour les opioïdes, alors la solution, elle est individuelle. Hein. Justement, la solution, c'est d'aller voir peut-être un médecin, un spécialiste, et puis d'en parler, et de parler de manière globale, et pas que forcément chercher une lésion tissulaire. Il y a des gens douloureux qui n'ont aucune lésion. Ça a été étudié, et notamment par beaucoup de kinés, parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Hein. Il y a des douleurs sans lésion et il y a des lésions sans douleur. Donc ça pose quand même question, et ça a été vérifié scientifiquement. Donc c'est intéressant de se pencher sur ce genre de questions. Voilà, donc se réapproprier tout ça, et puis chercher d'autres voies de drainage de ces souffrances. Hein. C'est toujours un petit peu... Après, c'est facile à dire.
Et est-ce que tu comparerais ça aussi aux gens justement qui ont des difficultés à dormir et qui prendraient des cachets justement pour s'endormir? Est-ce que pour toi aussi, tu considères ça à la même hauteur?
Bah oui. Oui, absolument. Autant ça peut être utile un certain temps, quand vraiment il y a une grosse difficulté, mais au long cours, c'est pareil, un hypnotique va induire un sommeil, mais c'est jamais un sommeil naturel, c'est pas un sommeil de bonne qualité. Tu dors, mais tu dors pas bien, tu dors pas aussi bien que si tu dors naturellement. Donc aller chercher derrière la raison, finalement, au lieu de donner simplement le pansement pour obliger à dormir et effacer l'insomnie, ça c'est le même comportement. Finalement, je prends un truc pour effacer le symptôme, mais je ne vais pas chercher ce qu'il y a derrière. Bah, on risque de ne jamais en sortir de ce comportement-là, tu vois.
Et d'être progressif, justement, si on veut aussi arrêter. Aussi. Hein, ça qui est important, de ne pas mettre un stop d'entrée, non. Parce que ça ne va pas marcher.
Ça va pas marcher. En addictologie, le principe, c'est tout doucement, pas à pas, étape par étape. Hein, on ne gravite pas une montagne du jour au lendemain. On fait des paliers, on fait des étapes. Et donc, on y va progressivement et trouver d'autres solutions. Donc là, typiquement, la rééducation, la kinésithérapie, c'est très intéressant de pouvoir travailler sur les questions de la douleur en lien avec les kinés pour apprendre à la personne à remobiliser son corps, à passer au-delà de sa crainte d'avoir mal et de s'apercevoir qu'elle peut rebouger son corps sans forcément être hyper douloureux, contrairement à la représentation qu'elle en a. Enfin, des questions comme ça, mais c'est toujours des bilans très individuels. C'est pour ça que je donne un peu jamais des recettes toutes faites, parce que c'est tellement individuel à l'histoire de chaque personne que c'est difficile. On peut donner des grandes orientations, mais pour chaque personne, ça va être un peu une histoire singulière.
Ok. Merci beaucoup, Christelle. Je ne sais pas si les garçons ont peut-être un mot de la fin. Une dernière question, peut-être, pour conclure ce podcast. N'hésitez pas à poser les vôtres en commentaire.
Je pense que l'automédication, c'est pas pour nous, c'est pas pour les individus. On n'a pas la notion.
C'est vraiment
l'éducation par un thérapeute. Qui va être un point d'appui pour vraiment aller vers le bon chemin.
Et consulter des spécialistes sur les problématiques. Et c'est souvent que des patients...
chronique, en fait, dès que ça se chronicise, il faut se demander, faut se poser la question de ce qui se passe.
Oui, il y a plein de professionnels spécialisés qui peuvent vous orienter là-dessus. Et sur les troubles musculo-squelettiques, typiquement, vous avez des médecins de rééducation qui vont pouvoir vous aider à poser un diagnostic, à faire peut-être les bons examens aussi, pour peut-être trouver ce sur quoi on est peut-être passé à côté. Hein, parce que faut changer, prendre d'autres avis et ou prendre des avis spécialisés auprès de chirurgiens orthopédiques quand vous êtes dans l'impasse.
Et puis il faut chercher. Parfois, la douleur, tu l'as exprimé, c'est compliqué. Hein. On devient fou, on peut être dépressif, on peut s'isoler socialement. Donc c'est vraiment la recherche par un kiné, par un chirurgien, par son médecin, par un psychologue ou peu importe le thérapeute, mais n'importe quel point d'appui peut aider à cette gestion de la douleur.
Et explorer si le mouvement traite.
Ouais. Et se donner aussi les moyens de prendre du temps pour s'occuper de soi. C'est aussi une démarche personnelle hein, de traiter une douleur. Il faut se dégager du temps, il faut être régulier aussi dans ce qu'on fait et avoir de la patience. Je pense que c'est aussi important de ne pas chercher un remède miracle. Et est-ce que, regardez si vous avez mal depuis longtemps, est-ce que tous les jours vous prenez une demi-heure pour vous à essayer de traiter ça, à essayer de le soigner? Si déjà la réponse à ça c'est non, peut-être que vous avez déjà pas fait assez, il faut peut-être en faire un petit peu plus. Et moi, personnellement, ça serait le message que j'aurais à donner aux auditeurs. C'est vraiment prendre du temps pour vous, et parce qu'en fait, votre corps, il vous demande justement de prendre ce temps-là.
Avec une stratégie établie aussi.
Aussi, bien sûr.
Il faut savoir où on va avec ce temps qu'on a accordé.
Et Christelle, tu disais que c'était un signal. Ça, c'est souvent oublié. C'est votre corps qui vous donne un signal, une alerte. C'est une communication qu'il faut entendre.
La douleur aiguë, c'est avant tout un signal qui est utile. Hein. Ça a été fait pour nous alerter qu'il faut mettre une action en route. La douleur aiguë, elle est utile, elle veut dire quelque chose, elle nous signale quelque chose.
Et la douleur chronique aussi, non ? La douleur chronique, elle nous dit que c'est toujours pas géré, non ? Elle nous dit, allez, c'est toujours pas fini.
Oui, elle nous dit autre chose. Tout à fait, elle nous parle aussi. Mais c'est un autre langage. Et là, ça devient plus compliqué. Dans une douleur chronique, il n'y a pas forcément une lésion tissulaire à trouver. C'est ça que je voulais dire aussi. Il y a peut-être une autre souffrance. Et nous, on veut toujours donner... Une origine lésionnelle, objective, un truc qui se voit comme ça tout de suite. C'est pas forcément le cas. C'était ça aussi le message.
Eh bien, merci beaucoup, Christelle. Je pense que le message est bien passé. N'hésitez pas à liker la vidéo. Le livre de Christelle sur l'alcool, et même si vous n'avez pas vu le podcast, on le mettra en description. Un grand merci à Christelle. Un grand merci aussi aux garçons d'être toujours intéressants. Et on se régale, de toute façon, hein, franchement. On se régale, Christelle, ou pas ? T'as pris du plaisir quand même avec. On s'est quand même fait presque deux heures de tournage. Ça va, ça a été ? On t'a pas trop fatigué ?
Non, ça va, franchement, impeccable. C'est passé très vite.
Et bon, regarde, gars, je lui pose la question, si elle a déjà écouté 1000%, elle dit : ouais, 1000%, c'est tranquille. Bon, voilà, bien aimé de cette réponse.
Eh bien, merci beaucoup Christelle en tout cas, et merci à vous les auditeurs de nous écouter. N'hésitez pas à laisser les 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire et un petit j'aime aussi. C'est pas grand chose, c'est gratuit, mais ça aide la visibilité du podcast. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Il y a du très très lourd qui arrive, donc reste accroché.
Ah, oui.
Et aussi juste 21 et 22 mars, le sommet de l'hypersanté, on sera présent. Venez nous voir avec plein de conférenciers. Vous avez même un petit code promo en bas, c'est à Paris.
Si vous mettez plus de 20 commentaires qui demandent à ce que Alex dédicace son livre, eh bien, il sera en train de dédicacer, il viendra pour dédicacer son livre.
Je fais une séance dédicace, mais je ne pense pas le faire. Mais en tout cas, on verra.
Écoutez, il y a plusieurs options. Soit il le fait à l'hypersanté, soit à la FNAC de Marseille. Donc, on vous propose ça.
On se déplace à Paris.
On peut faire partout. Merci à tous en tout cas, et à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.
Ciao.
Au revoir.